Chapitre 5. L'impureté hors du camp. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Commande aux fils d'Israël qu'ils mettent hors du camp tous les lépreux et quiconque a un flux et quiconque est impur pour un mort. Tant hommes que femmes, vous les mettrez dehors. Vous les mettrez hors du camp, afin qu'ils ne rendent pas impur leur camp au milieu desquels j'habite. » Et les fils d'Israël firent ainsi, et ils les mirent hors du camp. Comme l'Éternel avait dit à Moïse, ainsi firent les fils d'Israël. Versets 1 à 4. Une image de la discipline dans l'assemblée. Nous avons ici en type le grand principe fondamental sur lequel est établie la discipline de l'assemblée. Principe d'une immense importance, quoiqu'il soit peu compris et peu observé. La présence de Dieu au milieu de son peuple Israël réclamait de leur part la sainteté, afin qu'ils ne rendent pas impurs leur camp au milieu desquels j'habite. Le lieu où le Dieu saint habite doit être saint. C'est une vérité aussi simple que possible. Nous avons déjà fait observer que la rédemption était la base de l'habitation de Dieu au milieu de son peuple, mais nous devons nous souvenir que la sainteté pratique était essentielle à son séjour au milieu d'eux. Dieu ne peut pas habiter là où le mal est accepté de propos délibérés. Il peut supporter, et il supporte, la faiblesse et l'ignorance. Mais ses yeux sont trop purs pour voir le mal et regarder l'iniquité. Le mal ne peut jamais habiter avec Dieu, et Dieu ne peut avoir de communion avec le mal. Ce serait comme une dénégation de sa propre nature. Or, il ne peut se renier lui-même. On pourrait faire l'objection, le Saint-Esprit n'habite-t-il pas dans le croyant individuellement alors qu'il se trouve beaucoup de mal en lui? En effet, le Saint-Esprit habite dans le croyant, sur le principe d'une rédemption accomplie. Il est là, non pas comme le sceau de ce qui est de la nature, mais comme le sceau de ce qui est de Christ. Or, nous jouissons de sa présence et de sa communion exactement selon la mesure dont le mal en nous est jugé. Nous ne pouvons réaliser la présence de l'Esprit au-dedans de nous et nous en réjouir tout en satisfaisant les convoitises de la chair et de nos pensées. Non, il faut que nous nous jugions nous-mêmes et que nous rejetions tout ce qui est incompatible avec la sainteté de celui qui demeure en nous. Notre vieil homme n'est pas reconnu du tout. Devant Dieu, il a été condamné entièrement à la croix de Christ. Nous sentons son influence, hélas. Et nous avons tous à nous en juger nous-mêmes. Mais Dieu nous voit en Christ, dans l'Esprit, dans la nouvelle création. Le Saint-Esprit habite dans le croyant sur le fondement du sang de Christ, et cette habitation exige le jugement du mal sous toutes ses formes. Il en est de même en ce qui concerne l'Assemblée. Sans doute, il y a du mal en elle, du mal dans chacun de ceux qui en font partie, et par conséquent du mal dans l'ensemble. Mais il faut que ce mal soit jugé. Et s'il est jugé, il ne lui est pas permis d'agir. Il est annulé. Mais dire qu'une assemblée n'a pas à juger le mal, c'est aussi monstrueux que de soutenir que le chrétien n'est pas personnellement responsable de juger le mal en lui-même et dans sa conduite. Nous ne comprenons pas que cela puisse être mis en question. Quelle aurait été la conséquence, pour Israël, du refus d'obéir au commandement donné au commencement du chapitre que nous examinons ? S'ils avaient dit « Nous ne pensons pas qu'il convienne à des mortels comme nous, pauvres, faibles et faillibles, de juger qui que ce soit. Ces individus lépreux ou souillés pour différentes raisons sont tout autant israélites que nous et ont droit tout aussi bien que nous à toutes les bénédictions et à tous les privilèges du camp. Nous ne voyons pas qu'il soit convenable de les mettre dehors. » Qu'est-ce que Dieu aurait répliqué? L'exemple d'Acan. Si le lecteur veut se reporter un instant au chapitre 7 de Josué, il y trouvera une réponse aussi solennelle que possible. Qu'il s'approche et qu'il examine avec soin ce grand monceau de pierres dans la vallée d'Acor. Il est le témoignage concret de la vérité exprimée bien des fois dans l'Écriture. Dieu est extrêmement redoutable dans l'assemblée des saints et terrible au milieu de tous ceux qui l'entourent. Psaume 89, verset 7. Notre Dieu est un feu consumant. Hébreux 12, verset 29. La convoitise, ayant conçu dans le cœur d'un membre de la congrégation d'Israël, avait enfanté le péché. Voir Jacques 1, verset 15. Et cela concernait la congrégation tout entière. Telle est la solennelle vérité. Israël a péché. Et même ils ont transgressé mon alliance que je leur avais commandée, et même ils ont pris de l'anathème, et même ils ont volé, et même ils ont menti, et ils l'ont aussi mis dans leur bagage. Et les fils d'Israël ne pourront subsister devant leurs ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont devenus anathèmes. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'anathème du milieu de vous. Josué 7, versets 11 et 12. Ce passage est des plus sérieux. Il résonne de sa voix éclatante à nos oreilles et donne à nos cœurs une sainte leçon. Il y avait, pour autant que le récit nous l'apprend, plusieurs centaines de milliers d'individus dans tout le camp d'Israël, aussi ignorants du péché d'Acan que Josué lui-même semble l'avoir été, et cependant il est dit qu'Israël a péché, transgressé, pris de l'anathème, volé et menti. Comment peut-il en être ainsi? L'assemblée était une. La présence de Dieu au milieu de la congrégation en constituait l'unité. Unité telle que le péché de chacun devenait celui de tous. Un peu de levain fait lever la pâte tout entière. 1 Corinthiens 5, verset 6, Galates 5, verset 9. La raison humaine peut buter là-dessus, comme elle butera toujours sur tout ce qui est au-dessus de sa portée. Mais Dieu le dit, et cela suffit à l'esprit du croyant. C'est assez pour nous de savoir que le fait de la présence de Dieu exige la sainteté, la pureté et le jugement du mal. Rappelons-nous que ceci n'est pas exigé sur le principe orgueilleux « Tiens-toi loin, ne me touche pas, car je suis saint vis-à-vis de toi. » Ésaïe 65, verset 5. Mais sur le principe de ce que Dieu est, « Soyez saints, car moi je suis saint. » 1 Pierre 1, verset 16. Dieu ne peut pas donner l'approbation de sa présence à un mal qui n'est pas jugé. Il ne peut accorder la victoire à son peuple devant Haï lorsque Acan est dans le camp. Une victoire dans de telles circonstances aurait été un déshonneur pour Dieu. Israël devait être châtié. Il devait être humilié et brisé. Il devait descendre dans la vallée d'Acor parce que là seulement pouvait leur être ouverte une porte d'espérance. Voir Osée 2, verset 15. Juger ou ne pas juger. Ne nous méprenons pas sur ce grand principe pratique qui a été extrêmement mal compris par plusieurs enfants de Dieu. Beaucoup semblent croire qu'il ne peut jamais être convenable à ceux qui sont sauvés par grâce et qui sont eux-mêmes des objets de la miséricorde d'exercer la discipline sous quelque forme que ce soit. Pour eux, les paroles du Seigneur en Matthieu 7, verset 1 « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés » condamne automatiquement toute forme de jugement. Mais ces paroles veulent-elles dire que nous ne devions pas juger la doctrine et la manière de vivre de ceux qui se présentent pour demander la communion chrétienne? Appuie-t-elle l'idée que nous devons recevoir un homme, quelle que soit sa croyance, son enseignement ou ses actions? Notre Seigneur nous dit, dans ce même chapitre, d'être en garde contre les faux prophètes. Verset 15. Or, comment pouvons-nous être en garde si nous ne devons pas juger? En fait, la vérité est aussi claire que possible. L'Assemblée de Dieu est responsable de juger la doctrine et la conduite de tous ceux qui en font partie. Nous ne devons pas juger les motifs, mais les actes. L'apôtre Paul nous enseigne, dans le chapitre 5 de la première épître aux Corinthiens, que nous sommes tenus de juger tous ceux qui prennent place dans l'Assemblée. Car qu'ai-je à faire de juger ceux de dehors aussi? Vous, ne jugez-vous pas ceux qui sont de dedans? Mais ceux de dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Versets 12 et 13. Voilà un principe simple. Nous n'avons pas à juger ceux du dehors, mais ceux du dedans, c'est-à-dire ceux qui sont venus comme étant chrétiens, comme faisant partie de l'Assemblée de Dieu. Dès qu'un homme est admis dans l'Assemblée, il prend sa place dans une sphère où la discipline s'exerce sur tout ce qui est contraire à la sainteté de celui qui y habite. L'unité du corps de Christ. Ne supposons pas un instant que l'on porte atteinte à l'unité du corps quand la discipline de la maison est maintenue. On entend dire parfois que ceux qui cherchent à maintenir la discipline de la maison de Dieu déchire le corps du Christ. C'est une très grave erreur. Le fait est que le maintien de la discipline est notre strict devoir et que le déchirement du corps est une complète impossibilité. Il faut que la discipline de la maison de Dieu s'exerce, mais l'unité du corps du Christ ne saurait jamais être détruite. On entend aussi quelquefois des personnes parler de retrancher des membres du corps de Christ. C'est encore là une erreur. Aucun membre de ce corps ne peut être enlevé. Chacun a été mis à sa place dans le corps par le Saint-Esprit, en vertu du conseil éternel de Dieu, et sur le principe de la parfaite expiation accomplie par Christ. Rien ne peut jamais l'en séparer. Tous sont indissolublement joints, ensemble, dans une parfaite unité, et y sont maintenus par une puissance divine. L'unité de l'Église de Dieu peut être comparée à une chaîne tendue sur une rivière. Vous la voyez de chaque côté, mais elle plonge au milieu, et si vous deviez juger d'après la vue seulement, vous pourriez supposer que la chaîne a cédé au centre. Il en est ainsi de l'Église de Dieu. Elle apparaît comme étant une au commencement, elle sera vue une dans peu de temps, et elle est maintenant une aux yeux de Dieu, quoique son unité ne soit pas visible aux yeux de la chair. Le vrai secret de tout le sujet, le réel secours pour les cœurs des enfants de Dieu, se trouve dans la vérité de l'indivisible unité de l'Église de Dieu, du corps de Christ sur la terre. Cette grande vérité ne doit pas être regardée seulement comme une doctrine, mais elle doit être confessée, maintenue et réalisée à tout prix. Certains répondront que c'est une utopie que de vouloir réaliser une pareille idée dans l'état actuel des choses. Tout est dans une telle ruine et dans une telle confusion que nous sommes comme des enfants qui se sont égarés dans un bois et qui s'efforcent de s'acheminer de leur mieux vers leur demeure, les uns en grande masse, les autres en groupe de deux ou trois, et quelques-uns tout seuls. Ce raisonnement peut paraître plausible, mais au jugement de la foi, il n'a aucune valeur. La seule question importante est celle-ci. L'unité de l'Église est-elle une théorie humaine ou une réalité divine? Or, il est écrit, il y a un seul corps et un seul esprit. Éphésiens 4, verset 4. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17. Lisez aussi 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27, où ce sujet est entièrement développé. La parole de Dieu établit de la manière la plus claire la vérité de l'unité indissoluble du corps de Christ, et de plus, elle établit tout aussi clairement la vérité de la discipline de la maison de Dieu, de sorte que l'accomplissement convenable de la discipline ne portera jamais atteinte à l'unité du corps de Christ. Les deux choses s'accordent parfaitement. L'apôtre portait-il atteinte à l'unité du corps lorsqu'il demandait à l'assemblée de Corinthe d'ôter du milieu d'elle le méchant ? Assurément non. Et cependant, cet homme était un membre du corps de Christ, et que nous voyons réintégré dans la seconde épître. La discipline de la maison de Dieu avait fait son œuvre sur lui, et il avait été ramené. Tel était le but de l'action de l'assemblée. La sainteté de la maison de Dieu. Tout ceci peut aider à éclairer le sujet profondément intéressant de la réception et de l'exclusion à la table du Seigneur. Il y a sur ces choses une très grande confusion dans l'esprit de plusieurs chrétiens. Quelques-uns semblent croire que, si une personne est chrétienne, on ne peut lui refuser une place à la table du Seigneur. Le cas de 1 Corinthiens 5 est parfaitement suffisant pour décider de la question. Cet homme était un enfant de Dieu, mais en raison de sa chute et de son péché, il était ordonné à l'assemblée à Corinthe de l'exclure. Et si les Corinthiens ne l'avaient pas fait, ils auraient amené le jugement de Dieu sur l'assemblée entière. La présence de Dieu est dans l'assemblée, par conséquent, le mal doit être jugé. Ainsi, si nous examinons soit le chapitre 5 des Nombres, soit le chapitre 5 de la première épître aux Corinthiens, nous apprenons la même vérité solennelle exprimée ainsi par le psalmiste : la sainteté sied à ta maison, ô Éternel, pour de longs jours. Psaume 93, verset 5. C'est pour le peuple de Dieu que la discipline doit être maintenue, et non pour ceux du dehors. Était-il commandé aux fils d'Israël de mettre hors du camp tous ceux qui n'étaient pas israélites? Pas du tout. Mais tout lépreux, c'est-à-dire en type, tout individu dans lequel le péché est reconnu comme opérant, quiconque a un flux, c'est-à-dire celui dont émanait une influence corruptrice, et quiconque est impur pour un mort, telles étaient les personnes qui devaient être séparées du camp dans le désert, et ce sont les personnes qu'elles représentent qui doivent être séparées de l'assemblée de nos jours. Et pourquoi cette séparation était-elle exigée? Afin qu'ils ne rendent pas impur leur camp, au milieu desquels j'habite. Il en est ainsi maintenant. Dieu habite au milieu de son peuple. Où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, verset 16. Et encore, ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Il se peut que l'on objecte, mais comment est-il possible de trouver une Église pure et parfaite? N'y a-t-il pas nécessairement quelque mal dans chaque assemblée, en dépit de la vigilance pastorale la plus active et de la fidélité collective? Comment alors la règle suprême de la pureté peut-elle être conservée? Sans doute, il y a du mal dans l'assemblée, puisqu'il y a le péché habitant dans chacun de ses membres. Mais il ne doit pas être permis ou accepté. Il doit être jugé et maîtrisé. Ce n'est pas la présence d'un mal jugé qui souille, mais c'est le support et la tolérance du mal. Il en est de l'Église dans son caractère collectif, comme de chaque membre dans son caractère individuel. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 1 Corinthiens 11, verset 31. Si une assemblée renie sa responsabilité de juger le mal, soit dans la doctrine, soit dans l'état pratique, elle n'est plus du tout sur le terrain de l'Église de Dieu, et c'est alors un devoir impérieux pour nous de nous en séparer. Mais ceci ne tend-il pas à multiplier et à perpétuer les divisions? Il peut en résulter la rupture avec des associations purement humaines, mais qu'y a-t-il à regretter là, vu que de telles associations, quelque grandes, puissantes et utiles qu'elles paraissent, sont positivement contraires à l'unité du corps de Christ, à l'unité de l'Église de Dieu. Bien que nous ne puissions pas voir tous ceux qui composent l'Église réunis ensemble, c'est notre privilège et notre devoir de connaître et d'occuper le terrain de l'Église de Dieu et pas un autre. Et comment peut-on discerner ce terrain? Nous croyons que le premier pas à faire pour cela, c'est de se tenir éloigné de tout ce qui y est contraire. Il ne faut pas que nous nous attendions à découvrir ce qui est vrai tant que notre entendement est obscurci par ce qui est faux. L'ordre divin est « Cessez de mal faire et apprenez à bien faire. » Ésaïe 1, verset 16. Dieu ne donne pas de lumière pour deux pas à la fois. Dès le moment donc que nous découvrons que nous sommes sur un mauvais terrain, c'est notre devoir de l'abandonner et de nous attendre à Dieu pour une nouvelle lumière qu'il nous donnera très sûrement. Mais revenons à l'examen de notre chapitre. Confession et réparation. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël. Si un homme ou une femme a commis quelqu'un de tous les péchés de l'homme, en commettant une infidélité envers l'Éternel, et que cette âme-là se soit rendue coupable, ils confesseront leurs péchés qu'ils ont commis, et le coupable restituera en principal ce en quoi il s'est rendu coupable, et il y ajoutera un cinquième, et le donnera à celui envers qui il s'est rendu coupable. Et si l'homme n'a pas de proche parent à qui restituer la chose due, alors la chose due, restituée à l'Éternel, sera au sacrificateur, outre le bélier de propitiation avec lequel on fera propitiation pour lui. » Versets 5 à 8. La restitution. L'offrande pour le délit a été examinée dans nos notes sur le Lévitique au chapitre 5, et nous y renvoyons le lecteur. Nous nous arrêterons seulement sur la question très importante de la confession et de la restitution. La base du pardon de Dieu est sans doute la grande offrande pour le péché présenté sur la croix du calvaire. Mais nous apprenons ici que Dieu recherchait la confession et la restitution lorsqu'un délit quelconque avait été commis. La sincérité de la confession était démontrée par la restitution. Il ne suffisait pas à un juif qui avait commis un délit contre son frère d'aller dire « J'en suis fâché ». Il devait restituer la chose qu'il avait prise et y ajouter un cinquième. Quoique nous ne soyons pas sous la loi, nous pouvons cependant recueillir beaucoup d'instructions de ces institutions. Si donc nous avons fait quelque tort à quelqu'un, ce n'est pas assez de confesser notre péché à Dieu et à notre frère. Nous devons encore faire réparation. Nous sommes appelés à donner une preuve pratique du fait que nous nous sommes jugés nous-mêmes. Une conscience délicate. Ce devoir n'est peut-être pas toujours compris comme il devrait l'être. Nous avons parfois un mode d'agir facile et léger relativement au péché et à la chute. Nous nous contentons d'une simple confession des lèvres sans avoir le cœur rempli du sentiment profond du péché aux yeux de Dieu. L'acte lui-même n'est pas jugé dans ses racines morales, et comme conséquence de cette façon de traiter légèrement le péché, le cœur s'endurcit et la conscience perd sa délicatesse. Cela est très sérieux. Prenons bien soin d'entretenir une conscience délicate. Nous ne voulons pas dire une conscience maladivement sensible qui se laisse dominer par ses propres lubies. Nous voulons parler d'une conscience délicate qui est gouvernée en tout par la parole de Dieu et qui s'en réfère toujours à son autorité. Un état sain de la conscience est un trésor inestimable. Lorsqu'il en est ainsi, elle prend connaissance des moindres choses qui sont en rapport avec notre marche et nos habitudes journalières. Notre toilette, nos maisons, notre ameublement, notre table, notre conduite entière, notre esprit, notre ton, notre mode d'agir dans nos affaires, la manière dont nous nous acquittons de notre travail, etc. À cause de cela, dit l'apôtre, moi aussi je m'exerce à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, verset 16. C'est ce que nous pouvons bien désirer avec ardeur. Malgré tous ces dons remarquables, toute sa connaissance des voies et des conseils de Dieu, toutes les révélations merveilleuses qui lui avaient été faites dans le troisième ciel, l'apôtre a porté une grande diligence à conserver toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Si, dans un moment d'oubli, il prononce une parole téméraire, comme il l'a fait en s'adressant à Ananias, le souverain sacrificateur, il est prêt, immédiatement après, à confesser et à faire réparation. En effet, il rétracte sa réponse trop vive, « Dieu te frappera par voie blanchie », et ajoute cette parole de Dieu, « Tu ne diras pas du mal du chef de ton peuple », voir Acte 23, versets 2 à 5. Nous ne pensons pas que Paul aurait pu aller se reposer cette nuit-là avec une conscience sans reproche s'il n'avait pas rétracté ses paroles. Il doit y avoir confession lorsque nous faisons ou disons ce qui est mal, et s'il n'y a pas confession, notre communion avec Dieu en est interrompue. La communion devient une impossibilité morale si le péché reste sur la conscience sans avoir été confessé. Nous devons conserver une conscience pure si nous voulons marcher avec Dieu. Cherchons à cultiver une conscience délicate. Cela exigera de nous ce que cela exigeait de Paul, savoir l'exercice. Mais c'est un exercice utile et qui produit les fruits les plus précieux. Ces paroles de Paul sont comme un condensé de toute la vie pratique du chrétien, avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, verset 16. Qu'en est-il de nous-mêmes ? Tenons-nous habituellement compte des droits de Dieu et de ceux de notre prochain ? Notre conscience n'est-elle pas loin de ce qu'elle devrait être ? Nous négligeons des devoirs de tout genre sans même nous en apercevoir. Nous commettons des délits dans une foule de choses sans qu'il y ait confession, restitution ou réparation. Il y a de la légèreté et de l'indifférence d'esprit dans l'assemblée et à la table du Seigneur. Nous frustrons Dieu de différentes manières. Nous pensons nos propres pensées, nous parlons nos propres paroles, nous accomplissons nos propres désirs. Et qu'est-ce que tout cela, sinon frustrer Dieu, puisque nous ne sommes pas à nous-mêmes, mais que nous avons été achetés à prix. Une telle marche ne peut qu'entraver nos progrès spirituels. Elle attriste l'Esprit de Dieu qui habite en nous et fait obstacle au ministère de la grâce de Christ pour nos âmes. Nous savons, par diverses portions de la parole de Dieu, combien il apprécie un esprit délicat et un cœur humble. Mais c'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé et à celui qui a l'esprit contrit et qui tremble à ma parole. Ésaïe 66, verset 2. Dieu peut habiter avec un tel homme, mais il ne peut avoir aucune communion avec l'endurcissement et l'insensibilité, avec la froideur et l'indifférence. Exerçons-nous donc à avoir toujours une conscience irréprochable et pure, soit devant Dieu, soit devant nos semblables. Infidélité et jalousie. La troisième et dernière partie de notre chapitre, versets 11 à 31, nous enseigne une leçon profondément sérieuse, que nous la considérions au point de vue des dispensations ou au point de vue moral. Elle place devant nous l'ordonnance établie pour l'épreuve de la jalousie. Nous croyons que cette ordonnance a une portée dispensationnelle concernant les rapports de l'Éternel avec Israël. Les prophètes, en particulier Jérémie et Ézéchiel, insistent fréquemment sur la conduite d'Israël comme épouse et sur la jalousie de l'Éternel à cet égard. Israël n'a pas pu résister à l'épreuve scrutatrice des eaux amères. Son infidélité a été rendue manifeste. La nation s'est détournée de son mari, le Saint d'Israël, dont la brûlante jalousie a été répandue sur le peuple infidèle. Dieu est un Dieu jaloux, et il ne peut supporter la pensée que le cœur qu'il réclame comme sa propriété soit donné à un autre. Ainsi, nous voyons que cette ordonnance, pour l'épreuve de jalousie, porte en elle l'empreinte d'un caractère divin. Dieu entre pleinement dans les pensées et les sentiments d'un époux outragé, ou même de celui qui soupçonne une infidélité. La simple suspicion est intolérable, et quand elle prend possession du cœur, la question doit être examinée jusqu'au fond. La personne soupçonnée doit subir un procédé dont la nature rigoureuse est telle que seule l'innocence peut la supporter. S'il y a une trace de culpabilité, les eaux amères iront la chercher dans les profondeurs mêmes de l'âme et la mettront tout entière au jour. S'il y a innocence, cela sera également manifesté. Le même procédé qui dévoilait la culpabilité du transgresseur rendait manifeste l'innocence du fidèle. Pour celui qui a la parfaite conscience de son intégrité, plus la recherche est rigoureuse, plus elle est accueillie avec plaisir. Ainsi, quand la femme soupçonnée était sortie saine et sauve de cette épreuve, sa fidélité était visiblement démontrée et une entière confiance lui était rendue. Le soupçon porte atteinte à toute affectueuse intimité et Dieu ne voulait pas qu'il existe au milieu de sa congrégation. Il ne voulait pas seulement que son peuple juge le mal collectivement et qu'il se juge même individuellement, mais là où il y avait même le soupçon du mal, il donnait lui-même une méthode d'épreuve qui mettait la vérité en lumière. L'eau que devait boire la femme symbolise la parole qui, étant apportée pour agir sur la conscience par la puissance du Saint-Esprit, manifeste tout. S'il y a quelque infidélité envers Christ, le véritable époux de son peuple, elle doit être entièrement jugée. Ceci est applicable au peuple d'Israël, à l'Église de Dieu et aux croyants individuellement. Si le cœur n'est pas fidèle à Christ, il ne sera pas en état de soutenir le pouvoir scrutateur de la parole. Mais s'il y a de la vérité au plus profond de lui-même, plus le croyant est sondé et éprouvé, et mieux cela sera pour lui. Quelle bénédiction lorsque nous pouvons vraiment dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle. » Psaume 139, versets 23 et 24.